RCF. Bonjour, fidèles auditeurs, auditrices de notre émission « La vie militaire dans le Cher et le Berry » avec Agora Défense dans le cadre du Berry se raconte. Notre invité aujourd'hui, le colonel François Aouchine, commandant du groupement de gendarmerie du Cher. Mon colonel, bonjour.
Bonjour, monsieur le père.
Merci d'avoir accepté mon invitation, sachant que votre responsabilité mobilise votre temps dans un quotidien où l'action est permanente. Mon colonel, je souhaite consacrer deux émissions à la gendarmerie nationale. La première sera consacrée à l'origine de ce corps et son évolution dans le temps. La seconde concernera plus l'officier supérieur, commandant un groupe d'hommes et de femmes, son action, ses convictions. Mon colonel, votre parcours d'officier s'inscrit dans une tradition militaire. Père et grand-père ont servi notre pays. Vous poursuivez avec passion cette vocation de servir la France. Diplômé d'école de guerre, grand sportif, rugbyman accompli, vous êtes un passionné d'histoire et de géopolitique. Ma première question. Officiellement, le nom de gendarmerie nationale est pris par un décret de l'Assemblée nationale constituante, issu des États généraux, le 16 février 1791. Cependant, il existait depuis fort longtemps un corps qu'on appelait maréchaussée. Pouvez-vous nous rappeler brièvement les grandes étapes, mon colonel ?
En réalité, vous me demandez comment la gendarmerie, dans son vaste mouvement de transformation depuis 900 ans, est passée de l'ost royal aux armées.
Tout à fait.
Et en traversant les grandes époques de notre pays, qu'elles soient l'ancien régime, la gendarmerie impériale, après l'époque de la Restauration, et puis la gendarmerie républicaine telle que nous la connaissons aujourd'hui. Je dirais que tout simplement, le fondement de la gendarmerie, c'est l'héritage de la cavalerie, du temps où la cavalerie était finalement l'arme des batailles et la charge frontale. Et il s'agissait en fait d'accompagner l'ost royal, c'est-à-dire de prévenir les débordements des troupes débandées. Et en gendarmerie, nous remontons en 1415, la bataille d'Azincourt, où le premier prévôt des maréchaux, Gallois de Fougères, est tombé sur le champ de bataille. On a coutume de dire que c'est le premier combat dans lequel sont tombés des sergents d'armes et des maréchaux, des prévôts des maréchaux. Et je dirais même plus que Gallois de Fougères est même finalement la création mythique de l'officier de gendarmerie tel que nous le connaissons. Et c'est la raison pour laquelle il existe, au rond-point de la Loi, à Versailles, le monument de la gendarmerie qui commémore cet héritage que l'on remonte maintenant à la bataille d'Azincourt, pardon, en 1415. Donc ça fait déjà un petit moment.
Alors justement, mon colonel, je vais vous donner un certain nombre de noms de gendarmerie et vous allez essayer de m'expliquer tout cela. Alors gendarmerie royale, gendarmerie impériale, gendarmerie nationale, gendarmerie mobile, gendarmerie départementale, garde républicaine. Vous est-il possible brièvement de nous présenter ces différentes appellations ?
C'est assez complexe, mais je vais simplement vous les expliquer en ayant comme fil directeur la devise de la gendarmerie, pour la patrie, l'honneur et le droit. Le gendarme et la gendarmerie a toujours servi son pays. Donc forcément, elle a pris les appellations des différentes époques politiques de notre temps. Et je dirais qu'il y a trois mots qui peuvent fonder l'histoire de la gendarmerie et ses appellations. Loyauté, loyalisme, légalisme. La loyauté, la loyauté finalement aux ordres reçus de ses chefs. Ça, c'est pour l'esprit militaire.
Oui.
Le loyalisme, c'est d'être loyal en tout temps au régime en place, dès lors que les ordres ne sont pas illégaux. Et enfin, le légalisme, c'est d'être un soldat de la loi et de n'avoir que pour seul objet la protection de la loi.
Alors, justement, mon colonel, est-ce que vous avez été gendarme mobile ? Vous êtes gendarme départemental ? Vous avez été, si je regarde un peu votre biographie, mon colonel, officier dans la garde républicaine. Est-ce que vous pourriez me donner un petit peu les questions, un petit peu les différences entre ces trois corps ?
Les trois, mon général. La garde républicaine est plus ancienne que la gendarmerie mobile.
Oui.
La garde républicaine, c'est un peu l'héritage du guet de Paris, de ces hommes en masse dans la ville capitale qui étaient destinés au maintien de l'ordre et au rétablissement de l'ordre. Donc la garde républicaine est très ancienne. Et d'ailleurs, les batailles de la garde républicaine remontent à très très loin. Ensuite, il y a une spécialisation avec la gendarmerie mobile qui a été créée en 1921, les troupes féroces et prétoriennes que voulait la Troisième République, parce qu'elle considérait que le maintien de l'ordre était une science et qu'il ne fallait pas confier ça aux armées, dont le but est de défendre le pays. Donc introduire une notion de discernement pour laisser s'exprimer la colère tout en la contenant sans jamais créer de troubles graves à l'ordre public. Et c'est la raison pour laquelle on note une digression de la garde républicaine à la gendarmerie mobile, qu'on a longtemps appelée d'ailleurs les gardes mobiles.
Oui. Combien est-ce qu'il y a de gardes mobiles, de gendarmerie mobile en France? Combien d'unités?
Il y a 105 escadrons de gendarmerie mobile, oui. Et environ un peu moins de 3000 hommes à la garde républicaine répartis en deux régiments d'infanterie et un régiment de cavalerie. Qui sont d'ailleurs toujours destinés aux services d'honneur et de sécurité des grandes instances nationales, des palais, du palais gouvernemental, du palais présidentiel, de l'Assemblée nationale, du Sénat et de quelques ministères.
Vous avez été officier où ?
Alors j'ai servi au 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine, donc le régiment en charge des honneurs et de la sécurité de la présidence de la République.
Très bien, mon colonel. Alors, est-ce que ça change quand on arrive dans la gendarmerie départementale ?
Oh, forcément. Avant même de servir dans la garde républicaine, j'avais fait mes premiers pas comme conscrit en tant que gendarme auxiliaire.
C'est ça, oui, c'est ça.
Dans la gendarmerie départementale. Donc oui, la gendarmerie départementale, c'est ni plus ni moins que l'armée dans les territoires, mais dans son acception, j'allais dire, civile, tout en conservant un ADN militaire, puisque nous vivons parmi la population et au contact de la population.
Alors, dans ce même esprit... Mon colonel, comment s'organise le corps de la gendarmerie ? Parce que c'est quand même assez complexe. Lorsque vous prenez un organigramme, il suffit d'aller sur Internet. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous décliner tout cela ? Sachant que vous êtes des militaires, qu'il y a peu, vous avez été associé, avec la police, vous êtes toujours unité militaire. Avec un service de renseignement. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus ? Parce que ça m'intéresse, ça.
Alors, je vais essayer de vous fixer ça à travers trois grands repères historiques. Hein.
Voilà.
Je vais commencer par le dernier repère historique. Le dernier repère historique, c'est la loi du 3 août 2009, portant organisation de la gendarmerie. Donc, il ne s'agit pas d'une simple loi ordinaire. Il s'agit d'une loi organique qui fixe les grandes missions et la grande organisation de la gendarmerie, qui est composée tout simplement en gendarmerie départementale, en gendarmerie mobile et en gendarmerie spécialisée. Et d'ailleurs, les missions, le législateur l'a voulu ainsi, sont très clairement écrites. Dans son article 3, il est dit que la gendarmerie est une force armée destinée au maintien de l'ordre pour veiller à l'exécution des lois. Il est dit enfin qu'elle participe à la défense des intérêts vitaux, oui, de la nation. Et il est dit vraiment à la fin, et c'est très important, surtout en ce moment, qu'elle participe au contrôle gouvernemental de l'arme nucléaire. Donc vous avez ici résumé de manière moderne, depuis somme toute un peu plus d'une dizaine d'années, ce qu'est la gendarmerie. Si l'on remonte un peu plus loin, il y a le décret organique du 20 mai 1903,
oui,
qui portait déjà organisation de la gendarmerie, mais qui était à cette époque rattaché à la direction de cavalerie et qui était soumis au code de justice militaire. Et c'est la raison pour laquelle, pendant des années, les directeurs généraux de la gendarmerie nationale étaient ou magistrats, des procureurs, des anciens juges, ou bien, à une certaine époque, des directeurs, ou plutôt même des sous-directeurs de la cavalerie.
Très bien. Très bien, très bien.
Et si je remonte encore un petit peu plus loin, oui, la loi du 28 Germinal en 6 fixe les missions de la gendarmerie départementale, de la gendarmerie en général, donc on dit la départementale, qui est tout simplement de veiller à la sûreté des voies de communication,
oui,
de veiller au maintien de l'ordre, à l'exécution des lois et au contrôle des troupes qui se déplacent sur le territoire. Et elle participe, en tant que de besoin, selon les volontés des gouvernants, aux troupes de ligne ou bien en prévôté, c'est-à-dire comme force militaire auprès des armées lorsqu'elles sont en déplacement pour prévenir les exactions.
Très bien. Comment la gendarmerie est principalement associée au monde rural ? C'est combien en pourcentage par rapport, je crois que c'est 90% du territoire ou 80% du territoire est à la charge de la gendarmerie.
La gendarmerie occupe 95% du territoire. Et entre deux recensements, elle couvrait une population qui était de l'ordre de 49% de la population ancienne. Et maintenant, on est à 52% de la population française à l'heure du dernier recensement. Cela signifie que plus d'un habitant sur deux vit maintenant en zone gendarmerie.
C'est ça.
Et que 9,5 élus sur 10 connaissent la gendarmerie.
Tout à fait. Tout à fait. Là, ça, nous connaissons très très bien la gendarmerie. Il n'y a aucun souci. Alors justement, cette présence en monde rural est très importante. Je crois que vous insistez beaucoup, mon colonel, sur la présence, le contact avec les personnes du monde rural. Ça, c'est très important.
Oui, le contact, c'est une mission historique de la gendarmerie. Et parfois, avec les évolutions qui sont rapides et sans précédent de notre société, on a tendance à oublier l'essentiel. Le contact, c'est l'ADN primordial, premier de la gendarmerie. Je vais vous citer juste un exemple.
Allez-y, mon colonel.
En 1720, Louvois décide d'encaserner les gendarmes. La gendarmerie, avant, était à cheval. Elle privilégiait énormément la mobilité. Mmh. 500 brigades existaient en 1720. 3100 aujourd'hui. 3600 il y a une dizaine d'années. 423 gendarmeries actuellement issues de ces 500 sont tricentenaires. Et nous avons fêté le tricentenaire, par exemple, à Bourges, à Vierzon, au Bigny-sur-Nère, à Saint-Amand-Montrond, à Sancerre. C'est dire si l'histoire est ancienne. Et partout, vous trouverez une place pour les chevaux, une écurie, de quoi mettre le foin. Dans les vieilles gendarmeries, on retrouve encore ce genre de choses. Donc l'héritage, il est manifestement rural et il est à cheval.
Merci, mon colonel, pour ces explications qui nous éclairent sur cette grande maison qu'est la Gendarmerie nationale. Merci aussi à vous, fidèles auditeurs, auditrices, pour votre écoute de l'émission Le Berry se raconte avec Agora Défense. Merci beaucoup, mon colonel.